Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre curiosité. Ça va Sidonie, la forme?
Ça va très bien.
Prête
Thomas,
à travailler?
Bah oui, on adore ça.
Alors dans cette émission, vous le savez, on aime voyager, découvrir les plus beaux sites dans le monde et en France. Par exemple, comme hier soir, quand on se balade dans le Mont-Saint-Michel, à ce moment-là, on a une exigence, on demande à notre invité de nous refiler des bons tuyaux, la preuve.
Ah, il ne faut vraiment pas rater la rue des Cocus.
Plutôt une ruelle.
Ah, ouais. Alors, quand on rentre dans le Mont-Saint-Michel, on ne peut pas rater la rue principale, qui est la rue avec tous les commerces qui montent jusqu'à l'abbaye. Au milieu de la montée, à peu près sur la gauche, entre deux boutiques de souvenirs, il y a une toute petite ruelle, un passage avec 2-3 marches. Elle s'appelle la rue des Cocus parce qu'on raconte qu'à une époque, les couples qui n'étaient pas forcément légitimes venaient s'embrasser là, en secret et en cachette.
Vous savez où allez vous cacher si vous visitez le Mont-Saint-Michel
ou
cet
si
été.
Ou si vous êtes cocu.
Et d'autres pépites, c'est gentil pour eux, à venir, Sidonie.
Ben oui, ils sont invisibles, ils ne font aucun bruit, ou presque, et pourtant, ils sont partout et par millions, les microbes. Mais n'ayez pas peur, vous allez découvrir pourquoi ils sont précieux et préservent notre vie, toutes les formes de vie.
Et puis on va plonger dans nos archives, des documents bruts, un parchemin signé Blaise Pascal, un manuscrit taché du sang de Robespierre, la chanson plagiée par le régime de Vichy pour écrire Maréchal. Nous voilà, vous irez de surprise en surprise.
Et tout de suite, mais au fait, pourquoi on travaille?
C'est vrai ça, pourquoi?
RTL. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les Parisiennes et Henri Salvador qui chantent les vertus du travail et les vertus aussi des loisirs, du rien faire, qu'est-ce qu'on aime ça aussi. Mais alors pourquoi travaille-t-on? Est-ce que c'est dans la nature de l'être humain? Est-ce que c'est si bon pour notre santé? C'est le sujet qui fâche de Ça m'intéresse Histoire. Et pour répondre à cette question, on est heureux d'accueillir notre sociétaire, la rédactrice en chef adjointe du magazine, Cyrielle Lemoyne-Toba. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Cyrielle.
Donc vous n'avez pas renoncé à travailler?
Non.
À l'issue de... parce que vous êtes venue jusqu'à nous.
Workaholic.
Est-ce que les Français aiment bien travailler? Workaholic, ça veut dire être très accro, c'est ça, au travail, c'est presque une drogue. Est-ce que les Français en sont à ce point-là?
Oui, oui, ils sont assez. Ils aiment leur travail. 56% des Français disent qu'ils sont fiers de leur travail. 58% disent qu'ils prennent du plaisir au travail. Et plus de 70%, aiment travailler, selon les derniers sondages.
Et pourtant, depuis pas mal de décennies, on cherche à travailler le moins possible, ou peut-être le mieux possible aussi.
Oui, c'est la tendance depuis le milieu du 19e siècle, l'apparition du salariat. On cherche à réduire le temps de travail. Dans les années 1840, il y a eu les premières lois pour réduire le travail des enfants. Donc de 8 à 12 ans, ils ne pouvaient travailler que 8 heures. Donc après, on a sensiblement supprimé la chose. Et puis, depuis lors, on ne fait que baisser le temps de travail. Il y a eu le Front populaire, il y a eu différentes lois, jusqu'aux 35 heures, entre 98 et 2000, qui nous permettent de travailler 35 heures.
Il y a eu les vacances, les RTT. Et puis il y a eu des décisions, en tout cas des projets qui ont vu le jour ou pas, mais qui n'ont pas trop duré. Il y a eu le revenu universel de Benoît Hamon, ça on a pas eu l'occasion d'y goûter. Et le ministère du temps libre de Mitterrand, ça n'a pas fait Flores.
Non, exactement. En fait, c'est une idée qui était reprise de profiter, de maîtriser son temps libre, le temps non travaillé. C'est une idée reprise du Front populaire. Mm-hmm. Et donc en 81, quand Mitterrand est élu, il va mettre en place le ministère du temps libre. Alors le problème, c'est que c'est pas du tout dans les mœurs à l'époque, que c'est largement raillé dans la presse, dans les médias. Qu'est-ce que c'est que ce truc informe? En plus, il y a une espèce de... on sait pas trop qui est à la tête de ce ministère. C'est partagé entre les sports. Enfin bref, c'est très très flou. Et surtout, ça a pas du tout bonne presse. En France, on travaille. C'est mal vu de pas travailler.
Alors Cyrielle Lemoyne-Toba, on va remonter loin dans le temps pour poser en fait ce débat, parce qu'effectivement c'est peut-être une question assez récente, la question du travail. C'était quoi le quotidien de nos ancêtres très lointains, Homo sapiens?
Alors c'était un quotidien de rêve, puisque on pense qu'il y a 100 000 ans, l'homme travaillait environ 3 à 4 heures par jour, et le travail consistait à trouver du gibier et récolter des baies sauvages. Et le reste du temps, on peut imaginer plein de choses. On sait, grâce aux découvertes archéologiques, en Afrique du Sud notamment, dans une grotte, on a retrouvé des perles de gastéropodes qui sont trouées. Donc on sait qu'ils faisaient certainement des bijoux.
On enfilait des perles.
Exactement, on enfilait des perles pendant le temps libre.
Donc ça, c'est de la création.
Et c'est la création. Oui. Et puis surtout, l'art est né à peu près vers moins 70 000, donc très longtemps avant Lascaux, finalement.
On avait plein de temps pour faire l'amour.
Exactement, voilà.
Sûrement, voilà une très très bonne époque. D'ailleurs, il y a des stages pour apprendre à vivre comme au paléolithique.
Ouais.
C'est étonnant. Nous, on y fait quoi? À part l'amour, évidemment.
Oui, on fait ce qu'on veut, mais de façon très sérieuse, nous on avait envoyé à nos journalistes à la fin de l'année dernière dans l'Ariège, à Tarascon-sur-Ariège, dans le parc de la Préhistoire. Et là, vous pouvez tous les étés passer en famille ou entre amis une nuit à la Préhistoire. Donc vous êtes vêtus de peau de bête, vous apprenez à allumer un feu comme à la Préhistoire, comme il y a 20 000 ans. Et effectivement, ça fait partie aussi de toute cette mouvance survivaliste où on a envie de savoir se servir de nos mains en cas de danger extrême et puis aussi de reprendre contact avec nos racines. Donc
on a bien compris que l'Homo sapiens ne fichait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, il profitait de sa vie. Et puis soudain, il s'est mis à travailler. Mais qu'est-ce qui lui a pris ?
C'est pas de sa faute, le pauvre. L'idée de travail, c'est vraiment... vous demandiez tout à l'heure si c'était dans la nature de l'homme. Pas du tout, on l'a vu. C'est vraiment poussé par une nécessité. En moins 10 000, en fait, il y a un réchauffement climatique. Et donc là, l'homme se met à faire beaucoup plus d'enfants. Les enfants survivent, puisqu'il y a de meilleures conditions. Et se pose la question de comment faire pour nourrir toutes ces bouches. Et donc, la solution, c'est de prévoir, de stocker des denrées alimentaires. Et donc, on peut pas stocker, on peut pas prévoir sans travailler. Donc, c'est là qu'on va se mettre à domestiquer les plantes et domestiquer les bêtes, donc c'est l'apparition de l'élevage et de l'agriculture.
Donc la sédentarisation aussi.
Exactement, du coup, effectivement, on a des bêtes dans un enclos, donc on a les premiers villages, on a les premiers sédentaires et c'est notre civilisation.
Est-ce que ça a eu des conséquences sur la santé des êtres humains à l'époque ?
Ah oui, les conséquences sont vertigineuses, puisque finalement, on va mettre beaucoup de temps, on s'est pas mis à cultiver des super espèces de blé d'un seul coup, ça a mis plusieurs milliers d'années. Donc au départ, on va cultiver un tout petit nombre d'espèces de céréales. Donc ça va introduire des carences alimentaires, des carences en protéines, en vitamines. Et puis il y a aussi, on le voit bien avec les grandes affaires même aujourd'hui, de grippe aviaire, de grippe porcine, habiter à proximité des animaux, c'est pas toujours super. On attrape leurs maladies. Et donc on va se mettre à avoir la grippe, la variole, etc. Et à le transmettre aux autres humains.
Donc le travail nous a rendu faibles en quelque sorte.
Exactement.
Et nous a fait perdre des centimètres aussi. J'ai découvert ça dans votre Ça m'intéresse histoire en préparant le sujet.
Exactement. En fait, on est carencé, on a des carences alimentaires, donc fatalement, on est moins bien et on a perdu 15 cm. On est passé de 1,75 m à 1,60 m entre moins 20 000 et environ zéro.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on les a récupérés, ces centimètres.
Mais récemment,
pas tous, mais
il y a 100 ans. Il y a 100 ans, à peu près.
D'accord.
Bon. Alors, dans un instant, vous allez découvrir l'étymologie du mot travail. Si je vous dis que ça a quelque chose à voir avec la torture, vous me croyez ou pas ? En tout cas, vous revenez. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Avons-nous vraiment besoin de travailler ? C'est l'excellente question posée par nos confrères du magazine Ça m'intéresse Histoire et Cyril Lemoine-Tolba est avec nous pour en détailler les réponses. Donc on aime bien l'étymologie ici, le sens des mots et donc l'étymologie du mot travail, ça vient d'où ?
Alors traditionnellement, on pense que ça vient d'un instrument de torture qui s'appelait le tripalium, quelque chose de très joyeux. C'était un instrument à trois pointes et qui permettait dans l'Antiquité d'immobiliser les bêtes comme les hommes.
D'accord. On en est sûr de cette origine ou il y a débat ?
Il y a débat quand même, parce que effectivement,
dur de se dire que
très,
le travail
très dur.
Seulement
après, ça
une
va bien avec l'idée de l'expulsion du jardin d'Éden et la malédiction du travail.
Du sacrifice.
On revient un peu sur ça, puisque on pense, certains linguistes pensent finalement que ça viendrait de trans. Il y aurait la racine, le préfixe trans, qui donne l'idée en latin de passage, avec l'idée d'effort à accomplir, et qu'on retrouverait dans tramontane ou dans travel en anglais, qui vient du français d'ailleurs. Et donc, là, l'origine serait plus joyeuse, puisqu'on pense que avant on parlait d'accouchement au Moyen-Âge, l'accouchement c'était le travail exactement. Et donc pourquoi pas ce travail ne serait-il pas joyeux et que ce serait le passage de l'enfant vers la lumière, donc quelque chose de plus joli.
Bah, alors, finalement on a les deux perceptions. Hein. Pour certains c'est une torture et on le souhaite pas, et pour d'autres c'est une façon d'avancer et de progresser.
Exact. En tout cas, par exemple, sous l'Antiquité, parce qu'on va avancer dans le temps, on était au Paléolithique, évidemment, on fait un grand bond. Sous l'Antiquité, qui travaille ?
Alors, on considère qu'à Athènes, il y avait 7 esclaves pour un citoyen grec.
Qui ne faisait rien, le citoyen grec.
Qui ne faisait rien. Ouais. Enfin, qui ne considérait pas qu'il faisait rien. Pour lui, il était très utile à la société. La valeur, même sous la Rome antique, c'était l'osium. Et l'osium, c'est l'idée de réfléchir aux affaires publiques. C'est contrairement à ceux qui travaillent, c'est ceux qui ont le temps de réfléchir à l'art, à la philosophie, aux affaires publiques, donc qui font des activités plus nobles.
Donc il y avait les hommes libres d'un côté, c'est comme ça qu'on les appelait, et les esclaves.
Qu'on appelait les laborieux aussi, c'est ça ?
Exactement, ceux qui travaillent, ouais.
Et au Moyen-Âge, l'esclave est remplacé par un cerf, on dit un cerf, c'est
un
ça ?
Cerf,
ouais. Un cerf. Quelle est la différence en fait ?
Alors,
c'est juste une différence d'époque ou vraiment il y a une différence
dans
les missions de travail ?
Il a quand même des droits, l'esclave, et peut être considéré comme un objet. Voilà, donc il y a quand même le cerf a une âme, c'est un chrétien. Voilà, l'Église est passée par là, mais c'est quand même une populace qui est attachée au domaine d'un seigneur ou d'une communauté religieuse et qui est tenue d'offrir sa force de travail à ce seigneur.
Et alors là aussi, les seigneurs ne font pas grand chose, même s'ils ne l'admettent pas. Ils font quoi ? Ils chassent, ils profitent de la vie,
ils
organisent des fêtes.
Ils peuvent aussi faire la guerre.
Ils font la guerre, c'est vrai.
Ils ont des devoirs, hein, ils doivent protéger les serfs, mais effectivement, c'est pas eux qui. L'idée, c'est qu'on a des grands domaines agricoles avec des faibles rendements et ça leur permet de bien vivre.
Et c'est ce peuple laborieux, ces serfs, ils travaillent beaucoup. C'est quoi l'amplitude de travail d'une journée
Alors,
au Moyen-Âge ?
C'est toute la différence avec les esclaves, justement, c'est que finalement, au Moyen-Âge, c'était pas si mal que ça, puisque la nature limitait le temps de travail, puisqu'effectivement, avec les intempéries et les saisons, on ne pouvait pas travailler tout le temps. L'église aussi, avec les jours fériés, avec les fêtes. On considère qu'il y avait un jour sur quatre qui était chômé, donc plutôt pas mal. Les dimanches, bien sûr, on ne travaillait pas.
On finissait vers 16h, c'est ça ?
On finissait vers 16h. Pourquoi ? Parce que tout simplement, travailler à la lueur de la bougie alors que tout était en bois, c'était extrêmement dangereux. Donc à 4h, on arrêtait tout.
Et même le verbe glander vient de cette époque du Moyen-Âge.
Ouais,
pourquoi ?
Ouais,
ça voulait dire quoi à l'époque ?
Alors, glander, c'était aller au glandage jusqu'à il y a 60 ans en France. C'était aller mener les cochons, manger des glands au pied des chênes. Et donc, comme c'était pas un travail très fatigant, ça a donné vers 1940, donc preuve que c'était encore dans le langage courant, l'idée de glander, de rien faire d'utile en fait, de rien foutre.
Ce qui nous fait du bien de temps en temps. Au Moyen-Âge, le travail n'est pas forcément vécu comme aliénant. C'est même une façon de structurer la société, on l'a vu, mais peut-être aussi l'identité de chacun.
Exactement, ouais. Parce qu'en fait, on est toujours inclus dans un groupe. Et donc, les travailleurs sont... Il y a des corporations de charpentiers, de lingères, avec des saints patrons. Et une fois par an, on va organiser le grand défilé. Alors, il faut imaginer les rues des villes avec des couleurs chatoyantes, les grands défilés des lingères avec Sainte Véronique. Et puis, tout le monde rivalise d'imagination pour faire le plus beau défilé. Et surtout, on est inclus dans un groupe. On fait société et du coup on a des compagnons, donc les compagnons étymologiquement c'est ceux qui, avec qui on partage le pain qu'on a gagné à la sueur de notre front, et ceux avec qui on partage des activités.
Avec vous Cyrielle Lemoine-Tolba, on va continuer notre voyage dans le temps au pays du travail, et on file au 16e siècle où on découvre que trop de travail tue le travail, et on est en Espagne notamment. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, en Espagne, au XVIe siècle, il va y avoir la découverte du Nouveau Monde et donc un afflux considérable d'or. On considère qu'entre 1500 et 1600, la quantité d'or qui arrive en Europe est multipliée par 8. Et l'Espagne va récupérer sur toute l'or qui rentre sur son territoire, la couronne d'Espagne récupère un quart. Donc ça devient... l'Espagne roule sur l'or, littéralement.
Mais qui ne travaille plus alors dans cette Espagne du XVIe siècle ? C'est-à-dire qu'il y a un chômage. tâches techniques, ou en tout cas le travail devient inutile pour toute la population ?
Il n'y a plus besoin de travailler en fait. À l'époque, on considère que la richesse des nations se calcule sur la quantité, l'accumulation d'or. Et donc l'Espagne est considérée comme une nation riche et les gens se disent qu'effectivement on peut vivre comme Adam et Ève et sans vraiment travailler. Donc il y a des rentiers, ça crée une société de rentiers. Les bourgeois ne travaillent plus ou en tout cas vivent chichement. Ils vivent avec un peu moins mais décemment, donc ça leur convient. Et puis surtout, on va se mettre à tout importer puisqu'on a de l'or. Donc,
il y a un revers.
Quelles conséquences ça va avoir, notamment sur le prix des matières premières, sur la vie courante ?
Sur la vie courante, bah, en fait, alors que jusqu'ici, jusqu'aux années 1500, la Castille notamment a été le grenier à blé de l'Europe, elle va se mettre à importer du blé de France. On va aussi importer de la main d'œuvre. Les Bretons vont venir fabriquer les voiles en Espagne. Les Allemands vont venir fabriquer les tonneaux.
Donc on perd en savoir-faire, ouais. Déjà, c'est ça que ça veut dire. Et puis l'or tend aussi à disparaître.
Oui, parce que un truc qu'on n'avait pas calculé, c'est que les pirates vont sérieusement freiner l'arrivée d'or en Europe. Et donc d'un seul coup, la manne providentielle va se tarir.
Donc en termes de durée, ça prend combien de temps entre le moment où l'afflux d'or finalement fait de l'Espagne la nation la plus puissante d'Europe, avec comme conséquence quasiment, je schématise, un pays de rentier, et le moment où le revers de la médaille se fait connaître pour tout le monde?
Ça va assez vite.
Quelques
finalement.
Décennies, quelques...
Ça, sur un siècle, à la fin du XVIe siècle, on considère qu'en Espagne, 10% des terres sont en friche. Donc c'est une catastrophe, puisque du coup, comme il n'y a plus d'investissement, le prix du blé flambe. Et il y a aussi la démographie en pâtit aussi. Et donc, effectivement, en 100 ans, c'est le déclin total.
Et la montée d'une religion, le protestantisme, oui. Qui porte une valeur particulière autour du travail.
Exactement, parce que pour les protestants, le travail ouvre les portes du salut de l'âme. Et là, c'est un gros problème pour Philippe II, qui est l'empereur d'Espagne, qui est aussi propriétaire des Pays-Bas espagnols, où se développe le protestantisme. Et là, c'est une sacrée concurrence à l'art de vivre espagnol de rentier, quoi.
Le travail, un enjeu politique. Vous verrez, on file au 19e siècle sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Travaillons-nous, et puis depuis combien de temps, et puis comment notre relation au boulot a changé au fil des siècles? C'est le dossier passionnant du magazine Ça m'intéresse, Histoire.
Il y avait un extrait de Blanche-Neige, là, c'est trop facile. Blanche-Neige, elle fait bosser les animaux, hein. Je ne sais pas si vous souvenez, quand elle veut nettoyer
bien.
Le chalet, c'est trop facile. Hein. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie.
Mais travailler, c'est trop dur, oui. On le sait bien. Cyrielle Lemoyne-Tolba, en 1840, parce que nous sommes déjà au 19e siècle dans notre grande chronologie du travail, combien d'heures de travail par an abat l'ouvrier ?
3200.
Alors, faut mettre ça en perspective, ouais. Avec
beaucoup.
Notre travail
c'est
d'aujourd'hui.
Beaucoup.
C'est deux fois plus qu'aujourd'hui, c'est le double.
La devise de la Deuxième République, c'est quoi ?
Alors, c'est la famille, le travail, l'ordre public et la propriété.
Donc, c'est important de travailler.
C'est important de travailler.
Donc on est, je disais tout à l'heure, au 19e siècle, le travail devient un enjeu politique. C'est quoi ? C'est une idéologie qui se développe, qui s'impose ?
Oui, alors là, on remet les choses en place. On est à l'apparition des premières usines, de l'industrie, c'est la révolution industrielle, pardon. Mm-hmm. Les gens affluent des campagnes vers les villes, et effectivement pour trouver un travail. Donc là, on n'est plus du tout sur le modèle du Moyen-Âge avec le paysan qui est soumis au rythme de la nature, mais on est soumis au rythme de la machine.
Est-ce qu'il y a des groupes d'ouvriers qui commencent à s'opposer à cette idée, à cette idéologie productiviste ?
Oui, alors effectivement, produire toujours plus avec moins de moyens, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et donc, il y a un groupe d'ouvriers qualifiés, ce n'est pas n'importe quel ouvrier, qu'on appelle les sublimes, et qui sont des espèces de rebelles romantiques, qui sont prétentieux, orgueilleux, grande gueule, et qui vont un peu vouloir mater les patrons.
Donc, ces sublimes, ils vont combattre le productivisme en travaillant à la pièce. Ça veut dire quoi ?
Oui, alors imaginez que, contrairement donc aux salariats, eux, ils vont être payés pour ce qu'ils produisent. Alors que le salariat à l'époque, qui est une chose nouvelle, vous avez l'habitude de produire 80 pièces par jour. Le patron est en retard, il vous dit, bah, pour dans deux jours, il m'en faut... vous allez travailler 20% de plus, vous serez payé pareil à la fin. Ça passe pas auprès des sublimes. Ils réclament des primes, ils réclament d'être payés pour ce qu'ils font.
Et ils peuvent planter entre guillemets leur patron quand ils veulent.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est, et puis alors ils sont adeptes des beuveries et du Saint-Lundi. Alors
le Saint-Lundi,
c'est assez chouette.
Ça peut nous plaire là. C'est quoi le Saint-Lundi? On décide de rien faire. C'est ça, c'est un jour chômé.
Bah, en fait, pour se remettre des excès de la veille du dimanche, ils décident de pas aller travailler le lundi.
C'est la découverte de l'absentéisme aussi.
Sacré absentéisme parce que eux, ils avaient 170 jours. En gros, ils travaillaient 3 jours et demi par semaine.
Voilà. Et le reste du temps, ils faisaient en sorte de pas être présents. Mais les Sublimes, c'est français, pardon, parce que moi, je découvre ça avec vous, Cyril Le Moine Tolba. Ouais, donc c'est vraiment un mouvement en France au 19e siècle.
Qui n'a pas réussi à s'imposer, apparemment, vu le travail qu'on fait aujourd'hui tous.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais en fait, ils ont eu mauvaise presse, tout simplement. Le fait qu'ils multipliaient les excès, qu'ils couraient la gueuse, qu'ils étaient plutôt pas mal alcoolisés. Ils ont, dans la Deuxième République, ils étaient très
rigoureuses.
Voilà, exactement. Ça ne passait pas. Donc ils ont eu mauvaise presse, ils ont été soutenus un temps, puis à un moment on s'est un peu lassé.
On est avant la montée du syndicalisme en fait, avec ces Sublimes.
Oui, en fait c'est vrai que le syndicalisme va mettre un frein à ce mouvement-là en 1884, donc les syndicats sont reconnus. Et là, le rôle des syndicats est plutôt de faire en sorte que le travailleur garde son travail.
1884, c'est une date importante.
Ouais.
Vous êtes passé vite. Qu'est-ce qui se passe?
C'est la loi sur les syndicats qui autorise les syndicats.
C'est-à-dire jusqu'à présent, il y avait des ouvriers qui étaient syndiqués, mais c'était illégal.
C'était pas autorisé, c'était pas encadré du tout.
D'accord.
Et puis à la fin du 19e, l'évolution à son comble, ne pas travailler, c'est vu de quelle façon?
Très mal, puisque finalement, c'est la paresse. Même si jusqu'ici, on avait des gens comme notamment le gendre de Karl Marx qui avait théorisé l'éloge de la paresse, là ça passe plus du tout, c'est associé à l'alcoolisme.
Et on fait quoi dans les entreprises? Par exemple, le directeur de la Société française de matériel agricole.
Oui, à Vierzon, qui va inspecter ses ateliers, le revolver à la main carrément.
Et dans les usines Renault, que fait la direction pour lutter contre les tirs au flanc? Alors ça, c'est assez... J'espère que ça ne va pas donner des idées à notre patron d'RTL. Vous allez voir.
Sûrement pas.
Non. Ben, les patrons des usines Renault font scier le bas des portes dans les toilettes, pour fliquer ceux qui restent trop longtemps en toilettes.
Parce que c'est un bon refuge, les toilettes, je trouve, pour faire des SMS. Chez soi aussi. Hein.
C'est pas totalement faux. Quand j'ai fait mon premier stage en entreprise à TF1 à l'époque, j'étais tout jeune journaliste.
Et il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque.
J'avais beaucoup bossé, mais je faisais beaucoup la fête aussi. La nuit, comment vous dire que les nuits étaient courtes. Et donc, j'allais me planquer aux toilettes pour faire la sieste.
Avec un oreiller.
Parce que j'assumais pas totalement.
Bravo, ça sera déduit de votre ancien salaire.
Ça va pas trop mal réussi.
Non, ça va, vous en tirez bien. Merci infiniment, Cyril Le Moine Tolba. Tout ça, c'est à lire dans le Ça m'intéresse, histoire, qui a pour une quand la passion enflamme l'histoire, folie, meurtre, scandale. Ça donne envie de le voler, tiens.
Vous écoutez RTL.